autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Jean-Yves Casgat.
Et si on développait la culture scientifique et technique en Afrique, en Indonésie, en Papouasie ? L'IRD, organisme de recherche dédié au développement du Sud, a mis en place une politique de diffusion des savoirs scientifiques vers les sociétés du Sud, en particulier en Afrique subsaharienne. Parmi ces initiatives, outre du théâtre scientifique, des expositions, des formations, une qui nous est chère à RFI, Web Radio Fennec, les oreilles de l'environnement. Comme son nom l'indique, c'est une web radio créée par l'IRD avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et le parrainage de Radio France Internationale, qui associe des étudiants, des chercheurs, des journalistes de radio locale en France, dans la région de Marseille, au Maroc, en Centrafrique, au Cameroun. Objectif : inciter des jeunes universitaires à mener des enquêtes sur leur environnement avec des scientifiques et restituer ces enquêtes à la radio. Avec Marie-Lise Sabrier, directrice de l'information et de la culture scientifique à l'Institut de recherche pour le développement, quand les savoirs se diffusent au Sud, c'est sur RFI.
Chut ! Quelque chose a bougé.
Mais qu'est-ce que c'est ?
J'ai peur. Très, très, très peur.
On dirait un fennec, là.
Mais non. Enfin, c'est une radio.
Je comprends rien.
Vin de Dieu, non. C'est encore une de ces radios Internet.
Oh, oui, radio fennec. Les oreilles de l'environnement.
Bonjour, Marie-Lise Sabrier.
Bonjour Jean-Yves.
Ça vous parle, ce petit générique ?
Oui, oui. Alors, ça fait partie de toutes ces activités que l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, met en œuvre dans les pays du Sud.
Alors, on va essayer de faire le tour. On va revenir, évidemment, faire un gros focus sur la radio, puisque nous sommes à la radio. Donc, bienvenue à la petite sœur. Donc, vous êtes un peu partout dans le monde. L'IRD, c'est... Moi, quand j'en ai parlé avec ma maman, qui ne connaît pas trop les sujets, elle m'a dit « Mais c'est quoi l'IRD ?» J'ai dit « Bah écoute, essaie d'imaginer le CNRS, mais qui serait à l'étranger dans le monde entier. »
Voilà, l'IRD, c'est un organisme de recherche public, unique en son genre en Europe, puisqu'il est dédié au développement des pays du Sud. C'est répondre par des programmes de recherche menés en coopération, bien sûr, avec les organismes de recherche dans les pays, mener des programmes de recherche pour répondre aux grandes questions auxquelles sont confrontés ces pays dans les domaines de la santé, des ressources en eau, de l'agriculture, des sciences sociales, les questions de pauvreté notamment. C'est 850 chercheurs dans 90 pays du monde, avec 30 représentations, 42% des personnels de l'IRD sont expatriés. Et ce, en Afrique, en Amérique latine, en Asie.
Et on doit dire qu'à RFI, on consomme beaucoup des personnels de RFI, puisqu'on reçoit souvent des chercheurs qui ont toujours un regard très aigu et en même temps très humain, très ouvert. On sent qu'ils sont complètement immergés, quoi. C'est pas uniquement du travail de laboratoire. C'est une de vos caractéristiques, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, le terrain, on dit que c'est des chercheurs en pathogasme, mais il y a aussi, bien sûr, des laboratoires de... On a des laboratoires P2 ou P3 dans le domaine du sida. Donc, c'est à la fois de la recherche de pointe, mais c'est aussi de la recherche terrain. Ça, c'est une constante de l'IRD qui a été créée il y a une soixantaine d'années.
Alors ça, c'est l'aspect recherche, donc on va dire production de savoir. Mais il y a cette activité qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est diffusion du savoir et puis comment susciter des vocations. Parce que c'est un peu partout pareil, la profession de chercheur, de scientifique, attire pas les foules à la sortie du lycée. Ouais. Donc, il faut donner un peu envie. Donc, vous avez lancé plusieurs programmes. Et ça fait un moment, parce qu'en 2010, vous avez eu le prix d'Hydro. C'est
oui,
quoi
on
déjà?
Oui, l'IRD a remporté le prix d'Hydro qui est décerné par l'AMSTI, l'Association des musées et des centres de culture scientifique et technique en France, pour un programme pilote de diffusion de la culture scientifique dans 10 pays d'Afrique. Alors, je vais peut-être revenir sur les fondamentaux. Mmh. Pourquoi un organisme de recherche diffuse ? D'abord, c'est inscrit dans ses missions depuis la loi 1983 de programmation de la recherche en France, et puis très récemment la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche a inscrit la culture scientifique comme une mission à part entière des organismes de recherche français. Mais pour l'IRD, c'est un petit peu spécifique, puisque nous travaillons dans les pays du Sud. Cette mission, elle doit s'inscrire à la fois sur le territoire français et puis dans 90 pays partenaires du Sud.
Ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est quand on lit l'intitulé de votre poste, c'est pas directrice de la communication qui fait un petit peu « je survole les choses et je suis sur la crête des vagues, je flirte avec l'écume », c'est « directrice de l'information et de la culture scientifique ». On sent de toute façon qu'il y a une volonté de fond et de transmission.
Oui, alors cette mission de diffusion des savoirs, c'est une mission qui, à l'IRD, est extrêmement importante, qui a été inscrite dans le guide des bonnes pratiques de la recherche pour le développement, qui a été édité par le comité d'éthique de l'IRD, qui considère que la transmission, le partage des savoirs avec la société civile dans les pays du Sud est une mission première de l'Institut.
Alors, comment on fait pour partager les savoirs ? Parce que c'est bien beau de dire « ça fait partie des missions », ok, mais après, il y a le savoir-faire.
Alors, un des premiers axes que j'ai souhaité développer dans cette politique de diffusion des savoirs, c'est de m'appuyer sur des associations locales. Parce que forcément, on est confronté, quand on diffuse le savoir scientifique, à une fracture entre la société et les émetteurs de savoir, les chercheurs. Donc je pense qu'il était très important dans des pays de cultures différentes de s'appuyer sur des associations qui favorisaient une appropriation culturelle de ces savoirs scientifiques produits dans les bureaux, dans les laboratoires des chercheurs. C'est aussi un problème de langue. Il y a énormément de langues parlées en Afrique et bien évidemment, il ne s'agit pas de parler ni le français ni l'anglais. Quand on parle de science, il faut parler le Fulfulde, il faut parler le Songo en Centrafrique. Donc, ne serait-ce que pour des questions simplement linguistiques, il est très important pour nous de nous appuyer sur des associations qui permettent cette appropriation, cette mise en culture africaine des savoirs scientifiques.
Et là, bon, on a choisi pour l'émission, parce qu'il faut que ça rentre dans une heure, hein, donc on a choisi d'aller au Cameroun, je crois.
Oui,
hein,
tout à fait.
Et puis, après, on ira à Bangui.
Tout à fait, pour rencontrer nos partenaires.
Mais avant de les appeler, on va peut-être écouter un disque du Cameroun d'ailleurs. C'est Caresser Fotso.
Mono wobi chung to say, bing say. binse ou kati fort tout un vin du pi.
Alors, parmi les belles surprises que vous nous avez concoctées, Marie-Lise Sabrier, nous allons avoir Joseph Foumtim au Cameroun. Vous êtes là, Joseph ?
Je suis là, Jean-Yves.
Bonjour. Alors vous, vous êtes chargé de la communication et de la culture scientifique à la représentation de l'IRD, donc au Cameroun. Alors, la question avec vous, c'est comment vous faites, Joseph Foumtim, pour intéresser les lycéens en Afrique à la démarche scientifique. Vous allez avec votre bâton de pèlerin dans toutes les cours de lycée en disant « Oyez, oyez, braves gens !»
Je précise, comme l'a dit Marie-Lise, que l'IRD travaille en partenariat avec des associations camerounaises, pour le cas du Cameroun, des associations, des lycées. Donc, c'est pas l'IRD qui va dans le lycée, forcément. C'est ces associations-là qui sont plus proches de ces jeunes, qui vont dans les lycées, les organisent en club, à partir d'un certain nombre de thématiques. Ça peut être la biodiversité entomologique, ça peut être les questions d'eau, d'hydrologie. Et donc, on les organise sous le parrainage d'un chercheur qui les aide à formuler les questions scientifiques autour des sujets qu'ils ont choisis. Ensuite, nous organisons avec ces associations-là des descentes sur le terrain pour faire des prélèvements ou alors dans des laboratoires pour les essais, pour les mises en évidence lorsqu'il s'agit des sciences qui concernent les laboratoires. Voilà globalement ce qui se passe.
Donc en fait, il y a et de la théorie et de la pratique.
Je dirais les deux, effectivement les deux. La théorie parce que même s'il est vrai, dans les établissements scolaires, on le fait déjà la théorie. Mais deux fois, le chercheur est amené, parce que les jeunes viennent avec un sujet, ils disent par exemple, nous on veut travailler sur, comme en ce moment à Yaoundé, il y a un club qui travaille sur l'entomophagie humaine. Et donc ils disent, on veut travailler sur la cueillette des larves blanches de raffia.
Joseph, je vous coupe une seconde. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'entomophagie, c'est manger des insectes, hein, on est bien d'accord.
C'est ça. Et donc les jeunes, eux, ils viennent avec ce sujet, mais il faut travailler avec eux pour trouver à l'intérieur de cette thématique des questions scientifiques. Par exemple, pour le cas du club jeune de Yaoundé, ils vont étudier la place de l'exploitation de cette ressource dans l'économie locale. Donc du coup, ils vont faire de l'inventaire entomologique. Ils vont comparer les activités y afférentes avec les autres activités plus connues comme l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et puis le chercheur va essayer de les titiller un peu sur une approche qui va être un peu plus écosystémique, leur permettant ainsi de ne pas seulement se limiter à l'étude de cet insecte, mais également de prendre en compte les autres ressources vivantes, à commencer par le raffia et l'habitat de cet insecte, et qui risque de disparaître parce que les gens se sont tellement rués dans l'exploitation de cette larve-là. Donc voilà un exemple de travail. Donc une partie théorique parce qu'il y a quand même quelques concepts qu'il va falloir discuter avec eux, mais également une descente sur le terrain parce que parler sans observer de façon participante sur le terrain, c'est un peu vide, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, on va aller dans un champ où pousse du raffia et on va aller observer la larve du raffia qui, finalement, sera une part de la nourriture des humains, c'est ça ?
C'est ça. mais également comme dans cette thématique, il y a une partie études économiques, les jeunes vont, après avoir fait cette observation sur le terrain, interroger, en fait, ils le font depuis quelques mois, et interroger les paysans pour qu'ils situent l'importance de cette activité dans l'économie rurale, et même les compétences, parce qu'aller cueillir les larves dans du raffia qui se trouve dans les marécages, il faut un minimum de compétences au moins physiques. Et ajouter à cela, il faut savoir compter le nombre de jours qu'il faut saigner le palmier pour que ça entre en putréfaction et favoriser le dépôt des œufs. Bref, il y a un groupe d'activités autour. Il y a l'aspect, effectivement, d'observation sur le terrain, mais questionner les gens au village, faire des comparaisons entre le revenu issu de cette activité et ceux revenant de l'agriculture, de la pêche, et ainsi de suite. C'est pas un sujet facile.
En tout cas, c'est vraiment extraordinaire, parce que au lieu d'un simple enseignement, qui ne débouche pas forcément sur des applications. Là, c'est toute la chaîne du savoir. On commence par observer, comprendre, savoir comment ça marche, et on l'insère dans la vie quotidienne, parce qu'il y a le poids économique que ça représente. Éventuellement, il faut faire du sport, parce que c'est un peu compliqué d'aller prélever. l'abbaye de Thélème de Rabelais. Hein.
Et puis, j'insiste sur la présence du scientifique, parce que autrement dit, ça va ressembler à ce qui se passait dans les années 70 au Cameroun, autour des années 70-80, on parlait de CLOP, des amis de la nature, beaucoup plus touristiques, dont la présence du chercheur, effectivement, c'est de les encadrer physiquement, parce qu'il faut leur dire, attention, dans les marécages, il peut y avoir des serpents, mettez les bottes. Mais surtout les encadrer scientifiquement, parce qu'ils vont toucher des plantes, il va falloir rapidement leur donner à quelle espèce ou alors à quel genre appartient le végétal. Et aussi, une fois revenu au quartier général, parce que dans chaque village, il y a une sorte, soit à la chefferie, soit à l'école du village, un petit endroit où on se positionne après pour classifier tout ce qu'on a recueilli. Ça se fait avec le chercheur. Et puis, deux fois, cerise sur le gâteau, on va plus loin. Il est arrivé des cas où le chercheur, avec ses jeunes, ils ont pu trouver quelque chose, un sujet, un article, au point de publier dans des revues scientifiques de rang. Donc, c'est pas forcément ce qu'on demande à ces clubs-là de produire des articles scientifiques. Les chercheurs le font, mais en cours de route, il y a eu des cas où ils ont débouché sur vraiment des trouvailles.
Et vous avez l'impression que les jeunes viennent de plus en plus, parce que j'imagine qu'on s'en parle et qu'on se dit, tiens, au club, ils ont fait ci, ça, non ?
Je signale que le premier club commence en 2001. Donc,
ah oui, bravo.
C'est 13 ans que nous avons cette expérience ici à la représentation. Si je fouille un peu dans ma mémoire, je vois une demi-dizaine de clubs créés avec des associations camerounaises et en moyenne annuelle de 12 à 15 membres, sachant que les clubs ont des effectifs qui ne sont pas fixes. Parce qu'en réalité, les clubs, l'idéal, c'est de ne pas avoir des étudiants de recherche. Donc du coup, quand tu franchis ce cap, tu sors du club et tu laisses la place à un autre. Donc du coup, on a, si je peux dire globalement, pour cette année en tout cas, on a deux clubs qui fonctionnent en ce moment, un club à Yaoundé, un club à Oku, et la moyenne c'est 15 par club, dont une trentaine. Donc quand on multiplie ça par 13 ans, je crois qu'on a un chiffre qui peut être important.
Eh bien, bravo Joseph Oumtim, merci de nous avoir donné toutes ces informations sur votre activité de chargé de la communication et de la culture scientifique à la représentation de l'IRD au Cameroun. Pour l'instant, sur Radio France Internationale, c'est l'heure des informations et on retrouve Marie-Lise Sabrier dans 3 minutes, ce sera juste après le journal.